bangu babane. Wawa yakome, wawa popsme, wawa papeme, wumbi sawe, weni mama. Mele lengo mamo, mba mamu bochi. Baba wale na mwana kebu umeba.
Et bah, au 01 43 71 89 40 bah, sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste et Urbi comme Orbi, sans sponsor ni publicité. Alors pour vos cartes de soutien, vos cartes d'auditeur, une seule adresse, Librairie du Monde Libertaire, 145 rue Amelot, c'est dans le 11e arrondissement, métro République ou Fille du Calvaire. Et c'est ouvert de, bah, du mardi au samedi à partir de 13h et le samedi un peu en fin de matinée. La très jolie voix qu'on a entendue là, bah, un tout petit peu, bon, on la connaît maintenant puisque c'est le générique, c'est Tita Nzebi, c'est magnifique, on est bien sur Onde de Choc, effectivement, monsieur Tison, vous connaissez, c'est l'émission qui peut faire et défaire les carrières à loisir, ça vous le savez, hein, voilà, monsieur Dauphin, oui, pardon, à la bon absolument, non, mais il est là, il est là avec oui, nous, c'est là, pour ça,
et on le représente,
et on le représente. Non, mais oui. je revendique mon lapsus, là, Odile Cohen-Abbas.
Bonjour,
vous êtes bien là, voilà. Et puis, attention, en cabine, vous n'avez pas n'importe quoi à la technique, c'est Monique. Ah bah c'est Monique. Tout le monde la connaît dans le romancier. Et le pire, c'est vrai, parce que tout le monde me demande où elle est.
Elle la connaît.
Donc, effectivement, j'ai dit Monsieur Tison, parce que Monsieur Tison nous a quittés. C'était quand fin...
14 novembre.
Hein, il avait quel âge, Monsieur Tison?
51 ans.
Parce que moi, c'est tombé comme ça, j'ai eu la nouvelle, paf!
Eh bien oui, nous aussi, même si effectivement c'est venu mais à petit feu. Mais
c'était quand même pas une nouvelle tout d'un coup qui nous a surpris. On a senti venir, ça faisait des mois, voire des années qu'on sentait venir les choses, que c'était quand même un glissement progressif.
Non, pas du plaisir.
Et mais... vers une mort qui était de plus en plus certaine et qui n'a pas cherché
d'accord.
à retenir.
Il est mort de quoi, puisqu'on me l'a demandé, hein?
Il est mort d'alcoolisme, les conséquences de tout ça, voilà.
D'accord.
Voilà.
Alors pourquoi je fais l'émission? Parce que par amitié aussi, bien sûr. Je fais l'émission aussi parce que au niveau poétique et de la littérature, c'est ce qu'on fait c'est excellent. Oui. Vraiment, là, ça fait longtemps que je n'ai pas trouvé un texte aussi bon que
absolument.
Celui-là. Oui, aussi parce que je l'ai reçu plusieurs fois.
Sa mère Catherine me faisait remarquer, parce que j'ai signalé l'émission à Catherine, donc la mère de Frédéric, qui nous écoute. Et moi, j'étais resté sur deux fois, parce que je me souviens qu'il nous avait accompagnés sa mère, donc Catherine, dit quatre fois.
Moi, je l'ai reçu pour Salon Silène, aux éditions.
Donc quatre fois, il est venu quatre fois dans le...
C'est toujours de la quatrième, non
enfin, oui, je fais aussi cette émission pour deux raisons, et après on va commencer à plonger dans le sujet. J'ai un ami qui est chauffeur de taxi, ça arrive chez Dauphin, et il écoute en direct, généralement quand il peut, l'émission. Quand il ne peut pas, et ben il repique le soir sur le podcast. Alors maintenant, vous savez qu'avec la technique, on est entendu aux quatre coins du globe. Faut pas rigoler avec ça, là. Et je me disais que... c'est Marcel. Marcel est en train de rouler, là. Il proteste tout le temps. Parce que quand on fait une émission, c'est de la littérature, pas des textes faciles. Il y a toujours un bus qui déboîte. Il y a toujours un mec qui klaxonne. Voilà. Et là, je me disais, là, on va commencer comme ça... Et quand Frédéric Tison, dans Second Silène à l'Armatan, écrit « Mais aussi, quel est ce rire ? Silène éclate d'un rire qui n'est pas tout à fait de la gamme de nos rires humains. Ce n'est pourtant pas un rire négatif, comme l'on peut parler d'une théologie négative. Il ne se définit pas seulement par ce qu'il n'est pas. Certes, ce n'est pas un rire gras. Oh, Silène éclate volontiers de ce rire aviné des ivrognes. Mais dans ce rire un peu pâteux, il y a une danse légère. » Alors, je me disais, qu'est-ce qu'il va... On a mis Marcel qui est en train de conduire. Qu'est-ce qu'il va en déduire? Et tout ça. Il y a ça aussi. Il y a aussi...
Ça dit tant de choses de Frédéric aussi.
Il ne faut pas que Marcel boive au volant, parce que là, on parle quand même de l'esprit dionysiaque, quand même. On est avec Silène et dionysiaque, quand même.
Il y a aussi ça. Pourquoi je fais aussi l'émission? Aussi pour que la voix, toutes les voix qu'on reçoit ici, ça sorte un peu du monde clos, des revues littéraires et des revues poétiques. On sait que les gens vont choper à droite à gauche quelque chose sans aucun problème. Il y a aussi le phénomène qu'actuellement, la situation politique, je ne sais pas si vous avez... On n'est pas des gens de Tour d'Ivoire, hein, on est en plein dans le monde. Et quand même au niveau de l'humour, et on est en plein dans le sujet politique actuellement, au Père Lachaise, un peu plus loin, il y a une allée. une année.
Même plusieurs.
Oui, mais il y a une année très spéciale au niveau de l'humour. Il y a la tombe des frères Rosselli. Je ne sais pas qui voyait les frères Rosselli, militants juifs, des juifs en militants antifascistes, tués par la cagoule dans les années 39 environ. Tué en Normandie, à Bagnoles-de-l'Orme. Ah, si vous avez vu le Conformiste comme film de Bertolucci, il a récupéré un peu l'idée. Hein.
D'accord.
Bon, bref, là, cette tombée-là, c'est avec un mur blanc, etc. C'est Nello et Carlo Rosselli, les intellectuels. Et juste en face, mais quasiment à un souffle, vous avez la tombe de Drummond. Vous voyez qui est Drummond? France juive, 1895, pardon, ça devait être à peu près ça. Et lorsqu'il y a eu les événements du 7 octobre, tout de suite, on a vu, la tombe de Drummond, il y a un buste dessus, un très beau buste, en très très bon état, sans aucun problème, et elle a été couverte de sang, de peinture rouge, simulant le sang. Ça, c'était comme ça. Il y a dû y avoir des plaintes ou un truc comme ça. Le buste a été nettoyé, a été nettoyé. Et là, le buste a disparu. Des gens sont venus déboulonner ce buste de Drummond qui est juste en face des frères Rosselli. Alors je veux dire que ça veut dire qu'il y a une tension.
Tension.
On peut pas l'ignorer. Là,
ça, on peut pas faire. On peut pas faire. Voilà. On arrive à Monsieur Tison.
La tombe des frères Rosselli n'a rien.
Hein? Ah oui,
elle n'est pas en bon
état. Elle n'est pas en très très bon état. Voilà. Moi, j'ai découvert effectivement Frédéric Tison par pas mal de livres. Donc, je suis resté aussi, surtout, puisque j'ai envie de dire, c'est mon préféré, selon Silène. On va en parler comme ça. Et ce garçon que j'ai reçu, qui était là-bas, au bout de la table, assez rigide, assez bon chic, bon genre. Effectivement, qu'est-ce que c'est que ce. Là, c'est un sujet que vous connaissez, monsieur Dauphin, c'est à l'ivrogne,
c'est le débordement. C'est qu'il était aussi très impressionné. C'était surtout un être extrêmement émotif, extrêmement sensible, une sensibilité vraiment ouverte à l'infini, qui devait se protéger aussi de cette sensibilité. Donc cette rigidité, je crois que c'est qu'une apparence et une protection simplement. Il était tout sauf rigide, il était complètement souple, complètement limpide, liquide, c'était tout le contraire. Et donc il devait se ramasser de temps en temps comme une protection dans une rigidité. Mais au contraire, pour pas pour cet épanchement perpétuel de cette sensibilité immense qui le submergeait, c'est ça.
Il avait un côté, intempestif aussi à travers sa personne, sa manière d'être, de parler ou d'écrire. C'est un peu comme ça qu'on l'a perçu, parce que nous, on le.
Oui, comment vous l'avez rencontré?
On l'a connu. Enfin, je parle pour les Hommes sans épaules. Donc, je suis le directeur de publication, donc la revue Les Hommes sans épaules. Donc, j'ai reçu moi par le courrier un jour une lettre de Frédéric Tison avec un choix de poème. Donc, il est arrivé par la poste, si on peut dire. Et immédiatement, c'est vrai qu'on, comme d'habitude, le comité, moi, je dispatche les textes, tout le monde lit, tout le monde donne son avis, et ensuite on prend une décision, on prend pas, et si on prend contact effectivement avec l'auteur. Donc là, on avait tous beaucoup aimé, même si c'était effectivement, ça semblait entre guillemets un peu loin de nous, quoi, un peu loin de ce qu'on défend, la poésie de l'émotion, l'émotivisme, le surréalisme. Mais nous, on ne publie pas des gens qui sont des ersatz ou des épigones de nous-mêmes ou qui nous envoie du Sous-Perret, du Sous-Breton, on en reçoit, et les gens nous envoient ça en espérant que, effectivement, ça va nous flatter et que ça va nous amener à les publier. Non, nous, ce qu'on recherche, c'est des choses un petit peu incarnées, où il y a de la chair, où il y a de l'os, il y a de la tripe, et de l'estomac, comme dirait notre ami Guy Chambellan. Et ça, on a perçu quelque chose de cette dimension chez lui, donc, dans ses textes, même s'il y avait un côté décalé. Au début, on s'est dit, ça nous plaît beaucoup, mais c'est une poésie qui a de la valeur. Il y a quelqu'un derrière, mais ça relève plus de la pensée que de la sensibilité ou du sensible. Ça a été la première, et on s'est dit, il nous rappelle un peu, il nous rappelle un petit peu Mallarmé, qui est un petit peu tombé en désuétude, de la même manière que Guy Chambellan, pour revenir à lui, à travers Marie-Françoise Pringer, s'est dit, c'est ma Mallarmé. Voilà, ça c'était la première. Donc on décide de le publier, on le publie en revue en 2007, donc on l'a publié une quinzaine de fois, et on a publié des livres, on y reviendra après, derrière. Et après on l'a rencontré, effectivement, quand on l'a rencontré, je reviens un petit peu sur la première appréhension qu'a eu géant. Le personnage détonnait autant que ses textes, quoi. C'est vrai que Frédéric, c'était quelqu'un de très doux, de très délicat, dans son phrasé, une très grande culture, mais pas une culture confiture, hein, vraiment une culture qu'il nourrissait, dont il était imbibé, il était très curieux, et une apparence de dandy aussi, hein. C'était un, il avait un côté coquet.
C'est là qu'on pourrait s'attendre que ce dandy, puisqu'il était dandy.
Oui.
Ne s'en remette pas, puisqu'on a parlé d'alcool, c'est pas moi, hein, il en a parlé d'alcool, ne s'en remette pas à Silène ni à Dionysos, mais à une grande tradition des dandys du surréalisme. Je parle des gens comme Rigaud, qui était bourré du matin au soir.
Oui, mais ça c'est pas sa culture.
C'est pas sa culture.
Non, mais il s'y intéresse, parce qu'évidemment, on pouvait discuter de lui, il avait une culture vraiment, assez encyclopédique. C'était un pic de la Mirandole, quoi. Mais il connaissait évidemment le surréalisme, mais c'est pas un Rigaud, c'est pas du tout un Cravant, c'est autre chose, quoi. Lui, c'était plus le dandy, on va dire, croisé, peut-être plus proche de Brumel ou de Barbet.
Vous savez ce que disait...
Non, moi, je voudrais dire aussi, pas seulement, même dandy, certes, moi, je suis tout d'accord, mais il avait un côté très proustien aussi.
Oui,
très proustien. Dans quel sens, proustien? C'est-à-dire une extrême délicatesse et attention à l'autre. Un désir comme ça de faire des cadeaux, hein, d'inonder l'autre de cadeaux, de dons, de compliments, une séduction qui était presque naturelle, mais pléthorique complètement. Hein. Vous étiez tout d'un coup devant lui la personne la plus importante du monde, et il ne savait pas quoi vous donner, pour peu qu'il avait une étincelle d'amitié, et alors une gentillesse mais débordante. Moi, la première fois que je rencontre Frédéric, c'était avec toi, Christophe, donc au salon de la revue, et il est devant moi, il me dit: vous êtes Odile Konaba. Ça donne un sourire mais angélique, supérieur, hein, des archanges, pas des anges, et puis tout commence comme ça, comme une espèce de coup de foudre, et de quelque chose qui s'est jamais démenti, avec des moments difficiles, parce qu'il y avait ce qu'il y avait de formidable aussi, enfin, dans ma relation. Je pense que tous les gens qui ont aimé et approché Frédéric, c'était la même chose. On pouvait tout lui dire, donc une amitié qui n'avait pas froid aux yeux, hein, qui pouvait tolérer justement les côtés négatifs, les zones d'ombre. On pouvait parler de tout, et donc dans ce sens, dans la mesure où on pouvait tout se dire, qu'il ne laissait aucune vilaine cicatrice. Hein, donc moi, j'ai pu tout lui dire de lui, même quand j'étais pas d'accord avec lui. Je disais: mais Frédéric, ça va pas du tout, mais tu débloques, mais ça va pas. Et il l'entendait, il pouvait l'entendre, et il y avait pas une ombre à notre amitié.
Donc c'était pas la même relation qu'on avait.
Christophe justement. Dauphin, on a parlé de Guy Chambellan. C'est marrant parce qu'on est contraint et forcé d'en parler. Moi, je peux rien faire. Les livres de Frédéric, ils sont trouvables 23 rue Racine.
Oui, puis sinon en ligne, les commander en librairie.
Alors, le phénomène, c'est qu'effectivement, moi, je ne peux pas lire Racine, simplement parce que je suis resté avec la tête de Chambellan. Je suis resté avec ce personnage hors de du commun, qui avait du style, qui avait absolument du style. C'est assez rare, et on ne trouve plus tellement ça maintenant. Voilà. Et effectivement, alors, je raconte vite fait, et je reviens tout de suite à Frédéric Tison. Il buvait comme un trou, Guy Chambellan, un soir, le soir tombe, il était rue Racine, j'étais avec lui sur le pas de la porte, il avait sa bouteille de Cheverdis à la main, le verre de l'autre, et il y avait un vernissage chez Flammarion. Et là, il y avait
juste en face.
Tous les taxis s'arrêtaient. Je crois que c'était pour André Chenide, un truc comme ça. Tout le beau linge était là, et Chambellan, qui était tard, il commençait déjà à vaciller un petit peu, et on arrive à Frédéric Tison, me dit, avec cette voix qui venait d'ailleurs, il me dit: tu comprends, les pays qui n'ont pas de légende seront condamnés à mourir de froid. c'est Patrice de la Tour du Pin. C'est une parole qui ne relève pas de l'émotion. C'est une parole blanche. Et ça, c'est très proche du texte de Frédéric Tison. On retrouve des gens comme Saint John Perse. Ça, c'est le seul reproche que je lui fais. Parce que des fois, c'est trop flagrant. L'appel au prince,
style,
l'appel
style,
au prince, etc. Le style, c'est là. Mais il y a ces...
Même si lui, l'appel au prince, on va dire, chez Frédéric, je dirais que ça... Moi, je ferais pas un rapport avec Saint John Perse, tu sais, je mettrais ça beaucoup plus loin, et avec Charles d'Orléans, dont il était un grand lecteur, tu sais. C'est plutôt ces poètes... qui était aussi groupé, d'ailleurs qu'il a auto-édité, hein, les poèmes de Charles d'Orléans. Il a fait un volume des poèmes de Charles d'Orléans et des poètes qui étaient groupés autour de lui. Et je pense que non, c'est plus ancien que
Surtout le prince a affaire à lui-même, oui. Et que les autres, justement, c'était pour illustrer ce qu'il se sentait lui être profondément, un roi, un prince, un dieu, quelque chose. Donc c'est à partir, c'est la démarche inverse. Il était content de trouver justement des illustrations dans d'autres œuvres de ce qu'il se sentait être profondément. Et il était de fait un prince. Oui, alors il était rien.
Oui, mais il a quand même une culture très profonde.
Et cette culture, c'est particulier aussi.
Il a lu tout ça.
La culture chez Frédéric, c'est aussi un mode de séduction.
C'est une nourriture.
Un mode de séduction aussi. C'est pour accrocher des parcelles d'amour. Parce que c'était comme un habit dont il se revêtait, dont il se parait, pour séduire. Parce que la quête fondamentale de Frédéric, c'est l'amour. Il n'y a pas d'autre sujet au monde, il n'a pas tort d'ailleurs, il n'y a pas d'autre sujet au monde que l'amour, c'est aimer. Donc la culture, ça fait partie de ces modes de séduction. On s'habille, on se revêt, c'est un vêtement de dorure, un vêtement de fête qui est la culture. Parce que comme ça, on va pouvoir séduire encore plus, se donner à voir, se montrer et accrocher des parcelles d'amour.
Avec un double visage aussi, parce que justement, pour revenir sur nos glorieux ancêtres, Vacher, Rigaud, Cravant, ils sont Vacher, Rigaud, Cravant, 24 sur 24 et tout le temps, quoi. Et même si Frédéric aurait pu les rejoindre à certains moments, ce n'est pas sa culture. Mais il n'empêche qu'il y a une véritable dimension dionysiaque chez lui. Il ne faut pas oublier que le premier livre de Frédéric donc, s'appelle Le Dieu des Portes, hein, le premier qu'on a édité, dont on avait publié des inédits. Enfin oui, non, il y a eu des effigies avant, mais enfin le premier qui est vraiment important, ils sont tous très bons les six, hein, mais celui-là, je pense que c'est le premier qui est marquant et qui est important, Le Dieu des Portes. Alors, Le Dieu des Portes, ça fait allusion à Janus, donc un des principaux dieux romains, et c'était peut-être le dieu qu'il mettait au plus haut de son panthéon, et auquel il s'apparente. Janus, on se souvient que c'est l'un des principaux dieux romains, donc c'est le dieu des commencements et des fins, des choix, le dieu des passages, le dieu des portes et le dieu à double face. Hein, c'est le dieu à double face, une face tournée vers l'avenir, une face vers le présent. Et Frédéric Tison, c'est le poète Janus. Dans son œuvre, comme dans sa vie, et tout le monde n'avait pas le même visage par rapport à ça. Donc.
Quand vous dites
le double, c'est vrai.
Il y a de la dualité chez lui.
Et chez elle aussi, d'ailleurs, j'ai remarqué.
Ah, c'est vrai. Mais j'ai dit le double, c'est vrai que c'est son thème de prédilection. C'est-à-dire cette quête de soi, de l'autre. Non, vous me faites exprès ? Non, pour me troubler, n'est-ce pas ? Justement, je veux parler du trouble qu'il crée à travers ses ouvrages. C'est fondamental. Il nous trouble, il nous enivre, il nous fait peine. Finalement, vous lisez un livre, les thèmes se répètent, se renouvellent, mais se répètent quand même, et créent toujours le même vertige. Quel est ce vertige ? On ne sait pas de qui il s'agit. Est-ce que dans Le Dieu des Portes, c'est le dieu ? Est-ce que c'est lui ? Vous pouvez lire un poème, et le personnage évoqué va se métamorphoser au fur et à mesure de la lecture. Donc, vous savez, c'est Frédéric, c'est le dieu, c'est Frédéric. Et cette double identité, hein, va créer un vertige qui est un des points forts dans l'œuvre de Frédéric. On ne sait pas qui est qui. Il nous guide et il nous mène par le vertige, par le bout du vertige. Et je crois qu'il adorait ça. Dualité, presque duplicité. Il y a un peu de zeste de duplicité aussi. Et c'est ça qui nous enivre. Il ne faut pas nier. Donc au début, vous êtes agacé, mais enfin, qui est qui ? Mais c'est justement ça, le génie.
J'illustre votre propos.
Allons.
Si je peux, merci.
Mais merci. Je reviendrai.
Il est donné à l'homme d'être un miroir de Silène. Comme lui, son origine est sauvage. Et cette sauvagerie demeure sous le vernis du langage et des cités architecturales. Comme lui, il rencontre Dionysos et lutte avec le dieu. Comme lui, il rêve de ce rêve qui n'est pas échappatoire aux rêveries, car le rêve ne s'oppose pas à la réalité, mais il l'irrigue, la soutient et même la fait advenir. Comme lui, il est une aile à construire et reconstruire. Comme lui, il passe et se souvient. Silène est le vieillard éternel et lointain du jeune homme.
Voilà, c'est ça.
Voilà, c'est un très bon choix.
Je vous remercie. Mais vous savez, par rapport à Charles d'Orléans, il va beaucoup plus loin, parce qu'il y a un très bel... Après, on écoutera...
Très beau numéro de Guy Chambellan aussi,
très
sur
bon.
Charles d'Orléans.
J'ai choisi une très belle musique. Vous allez voir les très belles musiques, bien sûr. Il y a un exergue là, de quelqu'un que je ne connaissais pas. C'est bien avant Charles d'Orléans. C'est vers 1210, hein, un dénommé Geoffrey de Vinsauf, je ne sais pas si ça vous inspire. Et c'est très beau parce qu'il dit « La cellule qui se souvient est une chambre des plaisirs. » Encore une fois, on est dans le paradoxe, là. Parce que si la
Toutes les citations sont remarquables. D'une part, les citations sont exceptionnelles.
Elles ne sont pas au hasard.
Ce sont des œuvres en soi. Et d'autre part, les livres sont remarquablement construits. Remarquablement construits. Très fouillés comme construits. Je voudrais juste dire ça. C'est que Frédéric serait souvent été très, très déçu que les gens ne se rendent pas compte de la construction.
J'atteste, il y a un très grand travail.
Des fois aussi, il y avait une ironie, il y a quelque chose ou un défaut, et personne ne le voyait. Il me disait, mais j'ai passé des heures, des mois, des semaines à travailler là, et personne ne le voyait. Il avait une jubilation de la construction, comme du savoir.
Odile Cohen-Abbas, comme je sais que vous êtes polyglotte à n'en plus finir, j'ai choisi un très beau morceau. Si vous identifiez, tant mieux. Et après, sinon, je vais vous dire ce que c'est. Merci Monique.
Verrà la morte, avrà i tuoi occhi, questa morte che ci accompagna dal mattino alla sera, insonne, sorda come un vecchio rimorso o un vizio assurdo. I tuoi occhi saranno una vana parola, un grido tacciuto, un silenzio, così li vedi ogni mattina, quando su te sola ti pieghi nello specchio. Oh cara speranza, quel giorno sapremo anche noi che sei la vita e sei il nulla, per tutti la morte a uno sguardo. Verrà la morte e avrai i tuoi occhi, sarà come smettere un vizio, come vedere nello specchio riemergere un viso morto, ascoltare un labbro chiuso. Scenderemo, scenderemo, scenderemo nel gorgo muti, muti.
On est au 01 43 71 89 40 sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Alors faire une émission avec des illettrés, c'est pas facile, mais des illettrés dissipés, ça y est encore moins. Ceci est un petit chef-d'œuvre, effectivement, c'est la voix de Léo Ferré avec une magnifique musique, et c'est surtout Monsieur Dauphin. Vous qui parlez de l'émotivisme, c'est ce que c'est ça, là. C'est un des plus grands poètes italiens du XXe siècle, Cesare Pavese. Ah oui. La mort viendra, et alors à tes yeux. Et si vous êtes très gentil, parce que je vois que vous êtes en état de turgescence absolue, on écoutera un deuxième morceau, L'homme seul, l'homme solo.
Bravo.
On aurait pu le
trouver. Bon, puisque vous êtes très cultivé, tout là, on va revenir à. À Frédéric Tison, il y a 15 jours, nous avons fait une émission avec Joseph Nozarzewski, avec des poèmes de Roger Mathieu, une postface de Jacques Coda et Étienne Ruot. C'est un très beau livre publié aux éditions Duro, la collection Bleu Turquin. C'est sur Hans Bellmer.
Ben oui, je vois ça.
Ça vous dit quelque chose, Bellmer?
Quand même.
Oui, non, mais qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous enchante?
On retourne un petit peu dans les roses, dans l'érotisme, on retourne dans la poupée aussi, hein, qui était un de ses grands thèmes de prédilection. Il y a une icazurne aussi derrière. Une œuvre magnifique.
Une œuvre magnifique.
Un des plus grands peintres surréalistes.
Avec des réserves.
Oui, allez-y, oui.
Oui. Pour moi, c'est un des plus grands peintres surréalistes, effectivement.
Donc, si vous, c'est l'édition Duro, ça s'appelle Hans Bellmer, si vous pouvez vous le procurer. Deuxièmement.
Et qui était en relation, si je puis me permettre, une anecdote. Donc, il était en relation avec Sarah d'Alexandrian. Il était ami avec Sarah.
On en a parlé.
Et j'ai même une lettre. Enfin, la première lettre qu'il écrit à Sarah, d'ailleurs, il lui écrit Chère madame.
Voilà, oui, à cause du prénom.
Parce qu'ils ne s'étaient pas encore rencontrés, après ils se sont rencontrés. Mais là,
deuxième parenthèse qui vous concerne, M. Dauphin, prenez vos responsabilités, oui. Les hommes sans épaules, numéro 56.
Oui, le dernier.
Alors, on ne peut pas faire sous silence le problème, et vous allez comprendre pourquoi. Il y a un passage, il y a des pages consacrées à Gérard Chalian.
Oui.
Hein, voilà, je vais vous dire en deux mots, parce qu'après on va parler d'autre chose. Gérard Chalian, qui c'est ? Qui est Gérard Chalian ?
Ah ben Gérard Chalian, il est à la fois poète, il est d'origine arménienne, et c'est un, comment dire, il est considéré comme un géostratège. J'aime pas beaucoup ce mot d'ailleurs, de géostratège. Voilà, donc c'est un des, on va dire, des grands aînés de cette discipline, donc la géopolitique, et ça a été aussi un grand militant, on va dire, d'extrême gauche. Il a beaucoup lutté contre l'anticolonialisme à une époque, donc en Algérie, Vietnam, en se rendant toujours sur place.
Vous avez fait une notice, c'est vous qui avez fait la notice. Il y a un petit oubli, c'est que quand il a 16 ans, il écrit à André Breton, et André Breton lui répond.
Si, mais on va revenir sur Gérard Chalian, parce qu'on va faire un numéro sur l'Arménie, justement, et là on va y revenir. Ah, ben, ça a été très important pour lui, le
surréalisme. Et deuxièmement, par rapport à ce numéro, alors on va le faire rapidement, parce que c'est Madeleine Riffaut.
Ah oui, Madeleine, oui.
Voilà, vous pouvez, on y va à deux, a cappella. On y va à deux, Madeleine Riffaut, résistante, militante anticoloniale, bah,
résistante à 20 ans, donc elle abat un officier allemand, elle est arrêtée par la milice, on la remet à la Gestapo, elle est torturée, elle est condamnée à mort, elle réussit à s'en sortir, avec un échange de prisonniers. Ensuite, donc elle veut, à la libération de Paris, donc rejoindre les troupes françaises armées pour aller en Allemagne. On lui dit, vous êtes une femme, donc c'est pas possible. Donc là, elle est complètement désespérée. Et elle rencontre Paul Éluard, effectivement, qui va l'amener à publier ses premiers poèmes, qui va faire son portrait par Picasso. Donc elle devient poète, elle publie des poèmes. Ensuite, il la présente à Aragon, qui la fait rentrer à l'Humanité. Donc elle va travailler pour la presse communiste et de la CGT et devenir ce qu'on appelle aujourd'hui reporter de guerre, quoi, sur le terrain en Algérie et au Vietnam.
Elle a 99 ans. Il arrive un sale coup.
Ah oui, c'est épouvantable.
C'est
épouvantable parce que voilà, Madeleine, effectivement, 99 ans. Alors que certains parlent déjà de la mettre au Panthéon. Bon, il faut quand même rappeler aux gens que les Panthéons, ne rentrent pas au Panthéon une personne vivante. Il faut quand même attendre que là, voilà, et elle est toujours bien en vie. Donc, avant de parler de faire entrer Madeleine au Panthéon, il faudrait peut-être aussi l'aider dans la situation qui est la sienne.
Alors, vas-y.
Puisqu'elle a été du fait. Pas tant de son âge, mais des tortures de la Gestapo et d'un attentat qu'elle a eu de la part de l'OAS. C'est quelqu'un qui est quasiment devenu aveugle, donc elle est évidemment très dépendante. Ouais. Elle avait une aide à domicile depuis plusieurs années. Et cette aide à domicile a abusé d'elle et lui a siphonné tous ses sous, quoi, voilà. À hauteur de 140 000 euros. Et aujourd'hui, elle a des gros soucis pour faire face à l'avenir, quoi. Mm-hmm. Tout simplement. Et donc, il y a une cagnotte qui a été lancée, qui a connu un certain essor, mais peut-être pas suffisamment pour l'aider, quoi.
D'accord. Donc, Gérard Chalian est d'extrême gauche, Madeleine Riffaut, ouvertement de gauche. Est-ce que c'est un tournant ou c'est un... la revue Les Hommes sans épaules baigne sérieusement dans ce qui reste du communisme ou pas ? Je sais que vous êtes très politisé puisque vous avez soutenu les Gilets jaunes, je crois, Monsieur Dauphin.
Oui, non, c'est pas soutenu, non, j'en...
Vous êtes parti.
J'en fais partie, voilà, sur le rond-point. Donc c'est pas seulement les soutenir, c'est être dedans. Maintenant, il y a toujours eu des combats, des valeurs au sein des Hommes sans épaules, une revue qui a 70 ans, puisque moi je dirige la troisième série qui a été créée en 96, mais la revue a démarré en 1953, avec des gens comme René Char, comme Georges Bataille, comme André Breton, qui sont des aînés tutélaires, et on est dans cette filiation-là, et on a les mêmes valeurs aussi qu'eux, que l'on poursuit, quoi.
Il y a une correspondance qui vient de... Après, on vient à Frédéric. Il y a une correspondance qui est parue il y a quelques mois, quelques années, là. C'est celle entre René Char et Albert Camus. C'est pas de la grande correspondance, mais c'est très intéressant parce qu'on voit, c'est années 50, 56, on voit... On voit plusieurs choses. On voit comment ils sont sortis de la guerre, comment on doit ou pas, lorsqu'il y a Budapest en 56, qu'est-ce qu'on fait? Et on voit une chose très particulière, et c'est pas dit, mais c'est dans le filigrane. Comment Charles a été résistant, Camus a été résistant, Breton est parti aux États-Unis. Et ce n'est pas dit, on sent qu'il y a quelque chose derrière, comme ça, qui traîne. Voilà, comme une espèce de ressentiment derrière. Ça, c'est la première correspondance, et Odile Cohen-Abbas. Il y a une très belle correspondance, c'est celle entre Albert Camus et Maria Cazares.
Ah, oui.
C'est absolument sublime.
C'est autre chose, ça,
ouais. Et je vais vous dire quelque chose, les dames, dans mes relations, j'en connais deux, trois, ont du mal à lire ça, tellement la passion de Maria Cazares est indescriptible. Lui reste quand même froid, reste quand même assez mec, entre guillemets, il est connu, etc. Et elle a une dévotion quasiment mystique. Et ça dure pendant 12 ans. Hein. Cette femme qui a tout, elle est connue, etc. Elle est magnifique. Et lisez ça, si vous pouvez le faire, et puis téléphonez-moi, ça va me faire plaisir.
Derrière le froid que vous évoquiez aussi par rapport à vous parler de la correspondance Charles, effectivement, Camus, et par rapport à André Breton, on ne faut pas oublier qu'il y a une autre personne qui explique ce froid, c'est le pavé dans la mare qui a été le déshonneur des poètes de Benjamin Perret. Et ça, c'est vrai que c'est un grand texte. C'est un grand texte, le déshonneur des poètes. Mais effectivement, donc il était militant trotskiste, donc encore à l'époque, Perret. Il est au Mexique, Breton était aux États-Unis. Les surréalistes, on voulait leur faire la peau, et c'était le moment rêvé, quoi, pour mal interpréter ce texte et pour leur faire payer. Et il a payé vraiment le prix cher, quoi, Benjamin Perret, pour avoir commis ce texte, quoi.
Est passé hier là, sur Public Sénat, c'est à peu près la seule chaîne fréquentable à la télévision, parce que l'apologie d'Éluard sur Staline. Je ne sais pas si vous la connaissez.
Oui, bien sûr.
C'est très intéressant de voir comment on peut être surréaliste et 20 ans, 30 ans plus tard, faire une apologie de Staline. Mais oui, mademoiselle Cohen-Abbas, on va parler des livres. Hein,
on va arriver. Frédéric.
Bon, il a fait autre chose et puis il n'a pas été le seul.
Oh, ce qui n'est pas une excuse.
Il a pas été... Oui, ah non, non,
là,
non,
c'est
non,
pas
non,
du
non,
tout
non,
une excuse.
Je ne cherche pas à le dédouaner. Au contraire, je ne cherche pas à le dédouaner.
Voilà.
Non, je ne cherche pas à le dédouaner.
Vous savez très bien qu'il y a des histoires pas très sympathiques de la part d'Éluard par rapport à Calandra ou des gens comme ça.
Ah bah oui.
Ça, on ne peut pas dire le contraire. Non.
La liaison, c'est peut-être justement de dire que Frédéric était très très loin des événements sociaux.
Oui, voilà, c'est là que je voulais en arriver. Est-ce qu'il était en sa tour d'ivoire ou
Non, pas dans sa tour d'ivoire. Je crois que c'est un phénomène naturel. Chez lui, l'éliminer, ça ne l'intéressait pas. Les événements sur lesquels il ne pouvait pas avoir prise, ça ne l'intéressait pas. Et puis, il poursuivait un autre rêve, une autre quête. Son Graal, c'était l'amour. Mais c'est pas mal aussi comme revendication. Et puis, je crois que ça va avec toutes les idéologies, hein, cette quête d'amour, d'une certaine manière. En tout cas, son Graal, c'était l'amour, son credo, c'était l'amour, et ce credo était tellement fort que ça faisait de lui un croyant. Hein, on a parlé un peu, Christophe, il en a été question ces derniers temps, est-ce qu'il a versé dans une forme de mysticisme ou de religiosité, hein, il était en contact avec un prêtre, on a appris ça un peu tardivement, mais moi je crois vraiment, par rapport à ce credo de l'amour, d'aimer absolument, ça faisait vraiment de lui un croyant, mais pas dans le sens où on part de Dieu pour arriver aux hommes, mais qu'on part de l'homme, de l'amant, de l'aimer, pour arriver à Dieu. Hein, que c'est une...
Mais vous savez qu'on peut être matérialiste et athée, avoir l'amour pour préoccupation sans aucun problème.
Hein. Oui, mais il est question de
c'est
Dieu
un bon
aussi.
Rappel,
hein.
Ça.
Il est aussi question de Dieu, du Dieu tel que l'entend le commun des mortels. Il est aussi question de Dieu. Tout ce qui était sujet d'élévation, de sublimation. Comment il dit, il y a un moment dans ses poèmes, il emploie une épithète, c'est surmerveilleuse.
Oui, mais moi, quand je dis surmerveilleuse, moi je pense à Frédéric Nietzsche.
Oui.
Et on peut pas traiter.
Frédéric Nietzsche est beaucoup. Je reviens à Proust. Proust. Oui. Alors peut-être à cause de son homosexualité aussi. Hein, parce que Proust aussi, donc longtemps.
Du côté dandy aussi, peut-être.
Dandy, comme Proust, absolument, oui. Christophe. Et, mais aussi, parce que je me suis posé longtemps la question, on en a déjà parlé, mais est-ce que c'est une œuvre de transposition, de sublimation, de mystification, comme la recherche du temps perdu, où tout est transposé finalement sur un mode qui peut être un mode d'amour aussi hétérosexuel, ou est-ce qu'il s'agit vraiment d'amour homosexuel? J'en ai parlé à Frédéric, et moi j'ai dit, mais Frédéric, ça m'a paraît pas l'homosexualité à travers tes ouvrages. Et il m'a dit, mais enfin, c'est évident. Et à les relire maintenant, Allez relire, je le sens beaucoup plus.
Mais ça, c'est le piège, Odile, parce qu'il faut... Alors, moi, je dis...
Il
ne faut jamais savoir ce qu'est un être par rapport à une lecture.
Ouais. Voilà. Mais pourquoi
Vous ne l'auriez pas su
ça
qu'il était homosexuel.
De toute façon.
Non, mais ça, bien sûr, ça ne change rien. Mais vous n'auriez pas su qu'il était homosexuel, vous ne l'auriez pas vu dans ses textes.
Pourquoi j'en parle pas, parce que, de toute façon, la beauté du texte, elle est égale,
oui,
que ça ou ça, ça ne change rien, n'est-ce pas ? Mais parce qu'il y tenait.
À quoi ?
À ce que ce soit reconnu. Parce qu'il y tenait. C'était important qu'il se fasse reconnaître comme homme qui aimait les hommes.
En filigrane, filigrane.
Non, il le voulait vraiment, Christophe. J'en ai parlé avec lui.
Ça, c'est son côté hellénique. Ça n'a rien à voir avec l'idée de Dieu. C'est vous. C'est,
non,
ça n'a pas à voir avec l'idée de Dieu.
C'est
son côté hellénique. C'est son côté. Il aime les beaux corps, il aime les beaux jeunes hommes, il aime tout ça. Ça, c'est dedans.
Mais pas seulement dans la sublimation, dans le réel aussi.
Mais dans le réel, mais tant mieux.
Et surtout dans le réel.
Ça sauve de la poussière, chère madame.
Mais de toute façon, Frédéric, c'est une chose et son contraire. Et je dis, le sublime dans cette œuvre, justement, c'est de mélanger les contraires. Et que c'est le heurte des choses. Il pense une chose, il pense son contraire. Il est un tel, mais c'est un tel aussi un autre. Et c'est sans arrêt ça. C'est ça, je le disais tout à l'heure, créer du vertige, du vertige, du vertige.
On ne peut pas considérer Dionysos ou Silène sans passer par Frédéric Nietzsche. Et si on ne voit pas la mort de Dieu dans Frédéric Nietzsche, effectivement.
Oui, mais voilà.
Moi, je voudrais rebondir
sur
ce que dit Jean, et avec les dithyrambes. Alors, le christianisme, il aurait adhéré, effectivement, au christianisme, je ne sais pas à quelle époque, au bout de combien de temps, est-ce que c'était vers les dernières années où ça allait vraiment mal pour lui, et il s'est raccroché un peu à ça. Je ne sais pas, je saurais pas le dire, mais moi, je vois pas un poète chrétien, quoi. Quand je lis Frédéric Tison, on lit pas Patrice de la Tour du Pin, ou moi je vois un païen.
Oui.
Je vois avant tout un poète païen, et c'est là où je rejoins la lecture.
Pour une fois, vous êtes lucide, monsieur Dauphin, bien sûr, c'est un païen.
Oui, mais alors que je me suis concentré.
Pas seulement, non, je ne suis pas d'accord.
Si, essentiellement, mais dans Silène, et Silène, c'est lui, et effectivement, mais dans Aphélie, dans Noctifère, l'étoile du soir, dans le dieu des portes, Janus. Enfin, je vois surtout, pour moi, c'est ce qui est prédominant aussi, ce
côté. Mais partout où il y avait de la beauté, il était preneur.
Oui.
Partout où il y avait de la beauté.
Ah, ça,
et dans la religion, il y a aussi des formes de. En tout cas, combien de fois on a parlé des évangiles avec Frédéric, il était complètement subjugué par les évangiles.
Oui, mais il n'en parlait pas avec tout le monde, Odile. C'est-à-dire qu'on revient encore à Janus. Toi, tu avais un visage, moi j'en avais un autre. Et il n'aurait jamais parlé
Il ne me montrait pas que ce visage à moi.
Moi, ça ne me pose pas de problème.
Mais il y avait... il y avait aussi ça. Partout. Il n'était pas sélectif, il prenait tout. Il prenait tout de l'amour, il prenait tout de la beauté. Et dans la religion, et en tout cas dans les livres, parce que les hommes en ont fait, il y a des choses aussi sublimes. Il voulait se passer de rien, de ce qui pouvait élever son sentiment de beauté et son sentiment d'amour. Voilà. Et puis, puisqu'on en est là, on peut parler de ça, dont on a parlé déjà. Il avait cette quête d'amour, d'unicité dans l'amour, d'amour du merveilleux, mais cette unicité dans l'amour, souvent, ça se brisait en plusieurs. Parce que quand il ne le trouvait pas, eh bien, c'était le recours à des nuits un peu difficiles, avec beaucoup de rencontres, beaucoup d'échanges, beaucoup de partenaires, qui créaient vraiment
et
des
de
choses...
Et de substance aussi.
Hein. Et voilà. Alors, d'un côté, quelque
Donc,
chose...
Donc, ce garçon rigide que j'ai vu... Qu'on a vu, c'est pas ça.
C'est Janus.
Vous savez ce que dit Cravan, une musique, une peinture qui serait rien qu'un peu voyou.
C'est ça.
Donc, ce que vous voulez dire, ma chère Odile, avec tant de passion. Non, mais vous avez de la passion, c'est bien. Ça veut dire que ce garçon, il y avait un côté trouble. Il y a un côté trouble.
C'est Janus.
Certaines de ses nuits pouvaient briser ses idéaux. Mais vraiment briser ses idéaux, c'était plus ça, hein, que plusieurs rencontres, des choses très très fictives, très très factices, et qui vous laissaient un peu, qui vous faisaient paraître un autre, vous en sortiez de ces nuits un autre.
Il savait qu'il allait vers la destruction ou pas?
Bien sûr qu'il le savait. Bien sûr qu'il a revendiqué. Il y avait une jubilation, il y avait une jouissance. C'est un jouisseur aussi, Frédéric. Profondément. Un jouisseur de la beauté, un jouisseur de la chair, un jouisseur de tout, même d'une forme de perversion. Et je me suis toujours demandé si cette espèce de pureté qu'on trouve dans ces livres, c'est pas une forme de réparation à cette destruction, à l'idéal amoureux brisé, si c'est pas une forme de réparation, voire de purgation. Je n'hésite pas à employer un vocabulaire religieux en parlant de purgation, justement, pour réparer, sauver et resublimer finalement son idéalité de l'amour et à chaque fois dans les textes la rejouer.
Je crois qu'il y a les deux. Et dans sa vie, bien sûr. Et dans son œuvre, c'est pareil. Et c'est ce qu'on a perçu, donc dès le départ aussi, cette façon de se faire accaparer les mythes, tout en respectant, les origines et la nature du mythe, mais c'est leur approprier dans une certaine modernité et qu'il arrivait à transcender, quoi. Mais d'un côté, on a effectivement une vision, spirituelle, abstraite, on pourrait dire elle est Apollon, et de l'autre côté, c'est le concret, la sensualité, l'héros, c'est dionysiaque, quoi.
Mais là, je vais revenir, quand il prend Dionysos et le Silène, il est ventru, le Silène, il picole, le Silène, il se traîne, on sort de la beauté, on sort d'Apollon.
Oui, exactement, c'est pour ça, c'est voilà, Janus, c'est les deux têtes, pour moi. C'est les deux têtes de l'œuvre et de la vie. On le retrouve aussi dans ce livre qui s'appelle Aphélie, celui de Nantifère.
On va le faire. On va écouter, comme vous réclamez beaucoup, là, on va
réécouter
Léo et Cesare Pavese, et on passe en revue les livres.
Et peut-être une ou deux lectures des textes de Frédéric.
Mais bien sûr. On va tous le faire.
Oh.
Voilà. Merci.
L'uomo solo che è stato in prigione ritorna in prigione ogni volta che morde in un pezzo di pan. In prigione sognava le lepri che fuggono sul tericcio invernale. Nella nebbia d'inverno l'uomo vive tra muri di strade, bevendo acqua fredda e mordendo in un pezzo di pan. In un pezzo di pan. Uno crede che dopo rinasca la vita, che il respiro si calmi, che ritorni l'inverno con l'odore del vino, nella calda osteria e il buon fuoco, la stalla e le cene. Uno crede finché dentro uno crede, si esce fuori una sera e le lepri le han prese e le mangiano al caldo. Gli altri allegri, bisogna guardarli dai vetri. L'uomo solo osa entrare per bere un bicchiere, quando proprio si gela e contempla il suo vino, il colore fumoso, il sapore pesante, mordi il pezzo di panne che sapeva di lepre in prigione, ma adesso non sa più di panne né di nulla, e anche il vino non sa che di nebbia. Non sa che di nebbia. L'uomo solo ripensi a quei campi, contento di saperli già arati. Nella sala deserta sottovoce si prova a cantare, rivede lungo l'argine il ciuffo di rovi spogliati che in agosto fu verde. Da un fischio la cagna e compare la lepre e non hanno più freddo.
Dauphin, si vous pouviez la fermer, ça me ferait plaisir. Nous avons une charmante femme compétente en face de nous au 01 43 71 89 40 et sur Radio Libertaire, la radio, je répète, sans Dionymède, de la Fédération Anarchiste. Vous avez reçu une toto ?
Absolument.
D'accord. C'est la revue de...
Abdelkader El-Janabi, voilà.
Avec un très beau dossier sur le camarade Gladiator.
Sur le Gladiator. Okay,
sur le Gladiator.
Le retour.
Là, je vais faire une parenthèse qui est très dure et très cruelle. Je vais y aller, là. Son anniversaire aujourd'hui, sa veuve, je ne devrais pas faire ça, mais c'est comme ça, je vais le dire, a publié sur les réseaux sociaux, là, la photo de Jimmy, une photo qu'on ne publie pas, ce genre de choses-là, on dirait qu'il a 95 ans, elle l'a mis dans une famille, en famille, bien en famille, comme ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc, dans ce In Toto numéro 5, il y a un dossier. Paul Prand aussi, ça vous inspire, Paul Prand?
Oui, le surréalisme roumain.
Comment?
Le surréalisme roumain,
oui, c'était publié figure, chez Paul Sanda, d'ailleurs.
Oui, il a fait un livre.
Là, il y a un très, très beau dossier. Et puis là, j'ai réservé, c'est pour Mademoiselle Abbas, qui adore la boxe. Elle adore la boxe, vous connaissez bien sûr la boxe.
Bien sûr.
Gracien Tonnat. Ça vous inspire, Gracien Tonnat?
Non.
Alors, très vite fait. C'est boxé comme Gracien, c'est un nommé Didier Castino et c'est publié aux Avril. Alors, vite fait, pourquoi je vous parle de ça? Gracien Tonnat, il est maltais, il est marseillais, il est italien, il ne sait pas trop quoi, encore même mille influences. Il arrive dans le monde de la boxe, il décide une chose magnifique. Alors, il va être un peu gangster, il va trafiquer. C'est vraiment le personnage des films américains. Et là, il décide quelque chose de très beau. Il ne sait ni lire ni écrire. Il dit, quand je serai champion du monde, je vais apprendre à lire et je vais apprendre à écrire.
Magnifique.
Et puis, il arrive au championnat du monde. Et puis, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, il aurait pu gagner, mais il se couche de façon bidon. Il n'a jamais su lire ni écrire ni quoi que ce soit. Et qu'est-ce qu'il tient aujourd'hui? Il tient une friterie. Il tient une friterie à Marseille sur un parking. Alors qu'il a eu toute la gloire pour vous, etc. Donc si vous pouvez lire ça, c'est magnifique, oui. C'est boxé comme Gracien, Didier Castillo, les Avril. Donc je suis sûr qu'avec la correspondance de Cazares Camus, vous allez vous empresser.
Et bien, on va refaire une émission
sans
aucun problème, après, nous en parlons.
Sans aucun problème. Alors qu'est-ce qu'il faut lire?
Mais
qu'est-ce qu'il faut lire comme livre? Dieu des portes.
Alors il y a les cinq ouvrages principaux. Donc il y a Les Effigies. 2013, je crois, dont tous sont publiés à la librairie Galerie Racine.
Et dans la collection plupart Les Hommes sans Épaules,
voilà, qui est dirigée par Christophe, ici présent, et librairie Galerie Racine avec Alain Breton, évidemment. Donc il y a les effigies, il y a le Dieu des portes qui a été primé, c'est le prix
Aliénor,
voilà. Il y a Aphélie, suivi de Noctifère, toujours les mêmes éditeurs, La table d'attente qui a été primée également.
Prix du poème en prose. Louis Guillaume.
Et le dernier. Et puis Nuage Noir, qui est mon livre, celui que je préfère.
Nuage Roi.
Nuage Roi, ça c'est
un livre
drôle,
un peu testamentaire, ça on ne le savait pas, mais d'ailleurs il y a des dédicaces à tout le monde y est, c'est comme un dernier tour de.
C'est le seul que je n'ai pas lu, je vous avoue.
Ah, il est très beau.
C'est
le plus autobiographique. Il est Nuage et il est Roi.
Et il y a selon Silène.
Oui,
je ne l'ai pas encore lu, j'ai pas eu le temps.
C'est très beau.
Ça, c'est à l'Harmattan, selon Silène. Tout est trouvable à Galerie Racine. Et
Les Hommes sans Épaules aussi.
Je pourrais peut-être lire deux tout petits textes, n'est-ce pas?
Je vous laisse
tout de suite. Oui.
Tout de suite. Pendant que vous allez lire, je vais chercher dans un de ces livres, parce qu'il y a un texte qui annonce. Vous connaissez l'œuvre mieux que moi, donc vous allez tout de suite me le dire, qui annonce le Silène. Je vais vous le trouver.
Ah, vraiment?
C'est très mal ce que vous me faites là, Odile. Voilà.
Je ne serais pas parfaite si je ne faisais pas de faute.
Allez-y, je vais trouver.
Simplement, deux petits textes, là, attendez.
L'extrait de quel livre, Odile?
Je vais le dire, mais je ne les trouve plus, parce que on m'a troublé une nouvelle fois. Et voilà, on n'a plus qu'à tout recommencer. Ah non, le voilà, il est là. Donc, deux petits livres tirés les effigies, les effigies qui sont des effigies poétiques. Voilà ce que je voudrais dire, juste ça, pour présenter un peu les effigies. Frédéric a inventé les paysages, inventé la ville, inventé les êtres, il inventait tout, il inventait soi-même. Tout est invention, tout est transfiguration, tout est invention, toujours.
C'est juste parce que la première émission que j'ai faite avec lui, c'était le Dieu des portes, où il parle de Rome. Et là, je lui dis, vous avez été à Rome, il me dit...
Non, voilà. Mais tout est comme ça. Alors, des fois, le problème, évidemment, c'est que les personnages, les êtres, les choses ne coïncidaient pas tout à fait avec ses rêves. Mais ça fait rien, parce que la part manquante, eh bien, c'est le poème qui le comblait, justement. Il pouvait, justement, cette part manquante, ou voire inexistante, vous dites, eh bien, c'est le poème arrivait à pallier les manques et les...
Il est porté par l'imaginaire aussi,
voilà,
par la dimension onirique.
Mais complètement, c'est-à-dire à l'exclusion de toute autre chose.
On vous écoute.
De tout petits poèmes érotiques, délicieusement érotiques. Donc, c'est très court. Donc, le premier s'appelle « Flux ». Passant d'eau vive, dans quelle main couleras-tu? dans quelle voix murmurera, dans quels yeux t'abreuvera, sinon à jamais dans les miens frêles. Or, j'ai moi aussi ruisselé près de toi. Joli, ça, non ? Vous voyez, c'est court, hein.
Mais pour une fois que vous êtes bref, je suis bouche bée.
Je vous en prie, ça suffit, vous gâchez le texte. Donc, vent et chair. Ça aussi, regardez, le premier vers est sublime. Vent et chair. Garçon fragile, ma demeure. Le vent balaye les visages des villes, et tu rêves, et tu l'aimes. Cependant, dans ton corps, un peu, tu le crains. Alors le vent te fait longtemps souffrir, il emporte toujours les oiseaux. Et c'est vrai que cette garçon fragile, ma demeure, sublime. C'est vraiment très, très
beau. Il y a une forme de lyrisme. Hein.
Ah ouais.
Il y a une forme de lyrisme.
Ça, c'est ce qu'on a compris après, parce que quand on a commencé à le lire.
Pas compris tout de suite. Parce que là, regardez.
Non, quand on l'a reçu en 2007, parce que vous oubliez qu'on a reçu les premiers textes.
Mais remarquez aussi que garçon fragile, ma demeure, c'est l'autre et c'est lui. Encore une fois, hein. C'est toujours comme ça.
Tu es à Saint-Pétersbourg en été, selon le décor des rois. Dans l'avenue plus grande qu'un château, une vieille femme veut te vendre une poule chétive. Dans les églises roses, vertes et bleues, des gens se pensent sur des visages d'or. Tu as appris quelques mots de russe. Les prononces-tu que la dame de l'hôtel, le passant, le marchand de poupées, te répondent en français ? Sur la perspective Nevski, tu penses à des livres de Gogol et de Dostoïevski et tu marches selon la valse des fleurs. Tu vois sous un pont plus long que le ciel la névage charrier des galions et des rêves comme une mer. Lorsque tu quitteras Saint-Pétersbourg, tu penseras au Troïka sur la neige, celle que tu n'as pas vue, glissant devant le palais d'hiver. Voilà. On va revenir à quelque chose de ça coule comme si c'était naturel. Il y a tout un travail derrière.
Bien sûr.
Tout un travail. Alors moi, c'est très bien. Il nous reste un petit qui m'a intéressé chez Frédéric Thies, c'est le phénomène de la mémoire. Je ne parle pas de la mémoire du souvenir, ça, on n'en a rien à faire du souvenir. Il a une mémoire locale qui vient de très 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 loin, de très très loin comme ça. Et il faudrait revoir de Yann ses textes où il dit à un moment donné qu'il n'a pas son âge. Il n'a pas son âge.
Ah oui,
voilà.
Presque plus.
Et je ne veux pas dire qu'il est vieux, hein, pas du tout ça. Je veux dire qu'il est habité par une mémoire du langage.
Mais ce qu'on peut dire peut-être, c'est qu'il ne vivait pas ni son âge, ni le lieu où il habitait, ni son époque, ni vraiment les gens avec lesquels il était, puisque tout est transfiguration. Il vivait dans les livres, complètement, essentiellement dans les livres, il n'en sortait pas. Donc sa réalité, ses amis, c'était les auteurs.
On en revient au mot que j'employais, qui nous ramène à Nietzsche, intempestif.
Intempestif, bien sûr. Mais vous savez, Odile, quand vous lisez quelqu'un que j'ai beaucoup fréquenté, qui s'appelle Rosa Luis Borges, est-ce que vous pouvez dire si Borges est chrétien ou pas chrétien ?
Voilà.
Est-ce que vous pouvez dire si Borges y croit ou y croit pas ?
Oui.
Est-ce que vous pouvez... C'est impossible.
Mais voilà, et c'est ça, formidable, c'est formidable. Voilà. Mais pourquoi choisir ? Dans une société, on nous contraint toujours, on nous force à choisir. Mais pourquoi choisir ? Moi aussi, je prends tout, une chose et son contraire. C'est tellement plus riche. C'est ça, l'ouverture.
Guy Chambellan disait que le mot éclectique, contrairement à la vulgarisation du mot, ça veut dire prendre en chaque chose le meilleur.
Voilà.
Hein.
Ah ben voilà.
Voilà. Voilà.
C'est exactement
quand,
ça.
Il était un éditeur éclectique.
Ah oui, bien sûr. Et vous aussi, d'ailleurs, très contradictoire, d'ailleurs. Mais...
ouvert. Très ouvert.
Lorsque Borges dit « Peut-être un dieu m'a condamné au temps cette longue illusion. » On n'est pas sûr qu'il ait une croyance. Hein.
Non.
Bien sûr
mais
que non.
Non.
Oui, mais ça, c'est des gens qui sont fascinés par le langage.
Non, mais peut-être même quand il affirme quelque chose qui, justement, aux yeux, dans les oreilles de chacun, passerait pour ce qui est le plus croyant, il ne l'est pas, et le contraire. Quand il est le plus dans le rapport charnel ou quelque chose, où c'est là où vraiment il devient croyant.
Il faudrait faire une émission d'une heure ou deux heures. Pourquoi la croyance ne m'intéresse pas ? Parce que je crois au langage. Je crois que même les évangiles n'ont rien à voir avec la religion. Les évangiles ont à voir avec le logos.
Mais bien
c'est
sûr.
C'est le logos, le langage.
C'est un texte magnifique.
C'est pour ça, bien sûr. C'est le logos. C'est le langage.
Les évangiles, ce sont les prémices du roman classique, les évangiles. Hein, comme moi je trouve que les livres de mystiques juifs sont les prémices aussi du surréalisme et de tous les textes complètement explosés, éclatés.
Je ne vais pas vous décevoir, ça a été dit et écrit. Hein.
Ah ben, je ne sais pas, c'est bizarre.
Non, mais ça a été écrit. Mais regardez, quand il commence son selon Silène, alors, selon Silène, étude sur la figure du satyre Silène, compagnon de Dionysos. Et c'est dédié non pas à vous, monsieur Dauphin, mais à l'ivrogne. Hein, d'accord. Et il commence. J'aime les rois mous, les princes légers, les petits maîtres et les poètes mineurs. J'aime ces silences, ces murmures. J'entends là les silences, les murmures dans les chroniques, dans les livres, célèbres ou célébrés. Parmi les paroles humaines, convoquées au grand banquet des opinions débiles, n'y décèle-t-on pas cette sorte de paix blanche, de paix secrète, scintillante, qui est celle d'après l'orage. Or, il est des orages ignorés au cœur du silence qui ne font aucun bruit. J'évoque aussi le calme des pensées et des mœurs, l'absence d'ambition vulgaire, les chatoiements discrets, les rêveries précises et délicates, les propositions sans cri, l'ironie simple, mais aussi les ombres étranges et douces, les eaux qui dorment, les choses sombres, toute la menace sourde et perpétuelle de la vie.
Mmh. Et ça, c'est Frédéric, quoi. Là, on le retrouve bien dans sa culture, dans son érudition, qui n'est pas, flagornerie, qui est très profonde, qui part de très loin, et aussi dans son humilité.
C'est un mythologue.
Ah oui, non,
Il fait œuvre de mythologue, il descend dans le mythe de Silène.
Oui, mais d'ailleurs, ça m'est arrivé plusieurs fois de parler avec lui, et il me sortait des poètes romains, des poètes latins, ou même des poètes du Moyen-Âge, bon, pourtant j'en connais un certain nombre que je ne connaissais pas, et ça m'a rappelé les discussions que je pouvais avoir avec Yves Martin, qui était sans arrêt en train de nous sortir des noms de poètes parnassiens qu'on ne connaissait pas. D'ailleurs, on se demandait s'il les inventait pas, et non, il les inventait pas. Et Frédéric, c'est pareil, on peut vérifier derrière.
Nous avions signé un jour avec des mauvais garçons de mon espèce, un tract Anatole Baju. Personne ne connaissait Anatole Baju. La seule personne que j'ai trouvée qui connaissait Anatole Baju, c'était Yves Martin.
Ah ben oui.
Ce qu'on va faire, qu'est-ce que vous voulez dire?
Ce que je voulais dire simplement sur le savoir et la culture de Frédéric, c'était pas une culture banale, stéréotypée.
Ah ben non, c'est ce qu'on vient de dire.
Il suivait justement un fil intérieur, une intuition presque intuitive. Intuitive, une intuition. Quand vous aurez fini...
On va finir par un tout petit texte de vous, on va récapituler, et puis on va se dire au revoir.
D'accord, c'est bien dommage. Mais parce qu'un texte, j'aime beaucoup ce texte, parce qu'il est très présent, Frédéric. Il est très très beau, très présent dans ce texte. Voilà, c'est très beau. C'est un message qu'il nous laisse. Je suis ici le rythme et l'élan d'un autre vent, d'un autre chant, d'un autre temps. Nuages, haltes incessantes, je suis ici le mouvant. Je suis ici l'eau vivante, mort, que je te peigne sur fond d'or ou d'océan. Soir, que je vous baigne dans mes miroirs et mes rouges. Amour, que je t'invente. Je serai là, l'image qui manque, la ressouvenance, la pleine fenêtre et l'innombrable passant.
Voilà. Ah, merci, Olivier. Alors, Frédéric Tison, la table d'attente. Eh ben, la table d'attente, le dieu des portes. Aphélie, suivie de Noctifère. Nuage roi.
Le dernier.
Et selon Silène, c'est mon préféré. Malheureusement, il n'a pas été publié à la Galerie Racine. Qu'on peut trouver comment, ces livres, Christophe?
Ah ben, en librairie ou sur Internet. Hein. Sur Internet, en les commandant sur le site des Âmes sans épaules ou même en librairie. Hein. Tout cela sont diffusés. Hein. Et j'ajoute juste aussi que là, on a parlé des... Il y a six livres de poèmes, donc plus ce récit qui sont diffusés, mais il y a une autre partie de l'œuvre de Frédéric Tison qui consiste en à peu près 27, enfin j'en ai recensé 27, mais je me demande s'il n'y en a pas plus. Il y a 27 livres auto-édités ou hors commerce et qui sont également qui recèlent des petites perles, hein, des petits bijoux, quoi.
D'accord.
Ça, c'est la partie, on va dire, immergée.
Voilà. Tison était avec nous, aucun problème, c'est ce que j'ai voulu dans cette émission. Là, Monsieur Dauphin, plaisir.
Merci à vous, Monsieur Maître.
Mademoiselle Cohen Abbas, plaisir. Merci. Et puis Yves, j'ai aimé vos interventions, c'était magnifique comme d'habitude.
Ah, il a failli intervenir sur les évangiles. Il est incollable. Il est très fort.
Il faut remercier, bien sûr, Monique.
Ah ben Monique, évidemment.
Hein, bien sûr,
merci Monique.
C'était un plaisir à la générique.
Merci à vous, Géant. Merci profondément. Merci, Géant.
Comme quoi il faut. Comme quoi, il faut être toujours ivre. Tout est là, c'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi? De vin? De poésie? D'amour? Ou de vertu? À votre guise.
Et si quelquefois sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l'ivresse est déjà diminuée ou disparue. Demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle. Demandez quelle heure il est. Et le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge vous répondront, il est l'heure de s'enivrer. Pour n'être pas d'esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous sans trêve de vin, de poésie, d'amour ou de vertu à votre guise.
Fai freddi in mon anmo, es romantiche desuet. Io, Oriol Bresolano, e negresio. A Santori, Oriol in pace, l'eschino di nase. Fina la mar, fina la mar. Fai freddi in un anno,
Me subí esto a usted.
segada del Sulés, porta un bandiero, un croschi dai sarà da sagetto, me sui visto de ma, arrapada al pelage de bestio sedo. Canta sua e la fiota a suo tavus, so che la muffa ha sospirat, so che mon coso pas dire u quesco u se de prima giù sa finestro cantarà giù sa finestro che di là noi tu cuesco e su un estello per munco. Thank you. naguette quand on sua et la fillette a soutenu. So que la mouffe a suspira, so que mon corps a pas dit. Quesco, usé de prima giusto a fenestro, ou cantara giusto a fenestro. Che di là noi tu cuescu e un estelo per mon corps. Cote fara d'homme, cote fara passe des mains. Que li fa il cor, cote farà don ben, cote farà pas de mão, mas que li fa il cor, ses amis de joy, ses amis de con, ses amis d'esper, io stavo in guerra espace. Non coupare espace, pas un pez lave blanca flou, de tout brave valgier. Non coupare espace, pas un pez lave blanca flou, de tout brave valgier. Non si lo coupe, se demurar a masse, subeni de flou. Demurar a passa vite, damo de flou. Pai, darmi, morirare, morirare, mamma, darare, darare, mamma, darare, 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 mamma, darare, 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 Time comme la flou des lauriers blancs, entre calme et folie. Time comme la flou des lauriers blancs, entre calme et folie. Espérer en mai que te baire bir, ma pense d'away, comme la flou des mes de mai.
Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Eh bien, avant qu'il soit l'heure de Trou Noir, je passe la parole à Nicolas pour qu'il nous donne quelques dernières nouvelles.
Bonjour à toutes et tous, donc Nicolas, micro de Radio Libertaire 89.4. Quelques infos d'animation, de mobilisation diverses à venir dans cette semaine qui commence. Tout d'abord, peut-être le nom de Onella ne vous dit-il pas grand-chose. Onella, c'est ce qu'on disait dans les manifs à l'époque des Gilets jaunes, et ce qu'on continue parfois à dire. Onella, c'est autre chose, c'est une entreprise, une agence d'aide à domicile, prestations ponctuelles ou régulières de ménage, personnes pour personnes âgées, en situation de handicap ou en convalescence. Donc voilà ce que fait cette entreprise. Et un certain nombre de ses salariés sont en grève depuis le mois de février. Ça fait 6 semaines qu'ils sont en grève et ils appellent à une réunion publique à la Bourse du Travail ce vendredi 12 avril à 19h. Donc vous êtes toutes et tous les bienvenus pour vous informer sur les raisons de cette mobilisation. Salariés en grève, les grévistes d'Onella réunissent leur soutien après 6 semaines de lutte. Et donc, pour en dire un petit peu plus sur ce qui motive cette grève déjà longue, ça fait maintenant un mois et demi que la moitié du personnel en astreinte de nuit, donc 8 employés sur 15 de la société Onella, sont en grève pour revendiquer une augmentation de salaire ainsi que de meilleures conditions de travail. Pendant plus d'un mois, plus de 85% des travailleurs étaient en grève, 13 employés sur 15, et les grévistes sont majoritairement des étudiantes précaires. Elles se sont mobilisées contre la maltraitance généralisée de la part de la direction. Il y a aussi dans ces salariés des travailleurs sans papier, je crois. Donc on voit des populations qui seront moins aptes à se rebeller, mais pourtant elles se rebellent, et pour les raisons suivantes. En effet, depuis maintenant plusieurs années, les employés d'Onella subissent des conditions de travail déplorables. Par exemple, les locaux sont trop petits pour accueillir décemment l'ensemble des effectifs, à savoir 65 mètres carrés pour 15 personnes, c'est un petit peu étroit. Des nuisibles, ça veut dire cafards, souris, j'espère que ça ne va pas jusqu'aux rats, sont présents sur le site, c'est désagréable. Le plafond manque de s'écrouler et le système électrique est endommagé, et met par conséquent en danger la sécurité des employés. Donc on le voit, les grévistes ont de bonnes raisons de se mobiliser et il semble que la direction leur ait généreusement proposé une augmentation de 13 centimes, j'imagine que c'est de l'heure quand même. Ils ne sont pas contents, ils ne sont pas d'accord. Et donc voilà, si vous voulez en savoir plus et les soutenir, réunion ce vendredi 12 avril à la Bourse du Travail de Paris. Je pense que c'est celle de Place de la République. Autre chose maintenant, les éditions Noir et Rouge organisent leur fête du livre, ils en organisent plusieurs fois par an, et ce sera ce samedi 13 avril de 10h à 18h et dimanche qui suit 14 avril de 11h à 16h. C'est l'occasion de trouver des milliers de livres neufs et d'occasion, BD, romans, essais, livres d'art, d'histoire et de politique, et il y a parfois des raretés, j'en ai trouvé, des choses épuisées et introuvables à prix d'occasion. Ça se passera dans les locaux de l'EDMP 8 Impasse Crozatier à Paris. On est là dans le 12e arrondissement, si je ne dis pas de bêtises. Et donc ça, c'était la fête du livre des éditions Noir et Rouge. Du côté de notre librairie fédérale, la librairie Publico, à partir de demain, mardi 8 avril, donc à la librairie Publico, 145 rue Amelot, métro Oberkampf, République ou Fille du Calvaire, ce sera le début d'une exposition d'affiches antinucléaires. On va en effet se mobiliser à Publico et un peu ailleurs. Dans ce mois d'avril, on se souvient que le 26 avril est le triste jour anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl, catastrophe toujours en cours. Les combats nucléaires sont aussi des luttes par l'image, et donc les affiches, tracts et stickers contribuent à la mobilisation. Au travers d'affiches anciennes, c'est donc un voyage dans les archives de l'AFA et parfois d'autres organisations et de ses militants. Retour sur des luttes anciennes ou plus récentes. Alors si je vous cite les noms de Golfech, Plogoff, Cresmalville, les trains Castor, Flamanville et son EPR, ou Bure, voilà, suivant votre génération, ces mots-là vous disent forcément quelque chose. Ou encore, si je vous dis société nucléaire, vous me répondez société policière. Ça dort dans le studio. Il y a encore, si Tchernobyl vous a fait rire, ne manquez pas Golfech. Et pour les Bretons, mazouté aujourd'hui, radioactif demain. Donc le vernissage, c'est ça, c'est à partir de mardi à la librairie Publico, et le vernissage aura lieu le samedi 13 avril à 18h. Ensuite, ce sera la semaine suivante, mais je l'annonce par avance. Le mercredi 17 avril à 20h, le groupe Commune de Paris de la Fédération anarchiste vous convie à son ciné-commune pour voir un film et en débattre, un film qui s'appellera « Changer de vie, la vie et l'œuvre de José Mario Branco » de Nelson Guerrero et Pedro Fidalgo. Et les deux réalisateurs seront présents lors de cette projection débat. Qui est donc ce José Mario Branco, engagé depuis plusieurs années contre la dictature de Salazar au Portugal? Donc José Mario Branco s'impose comme un des grands noms de la chanson portugaise pendant son exil à Paris. Ses disques circulent clandestinement au Portugal. À cette époque, il signe également les arrangements de nombreux morceaux, dont le fameux Grandola Villa Morena de José Alfonso, qui deviendra quelques années plus tard le signal de la révolution des œillets. C'est donc une émission. Je bug, mais je vais m'y retrouver. Oui, j'avais prévu une habile transition. Donc, ça, c'était pour la librairie Publico. Donc, ce film, Changer la vie et l'œuvre de José Mario Branco. De notre côté, le trou noir qui va commencer dans quelques minutes va consacrer une émission en hommage à Américo Núñez. Et Serge nous en dira quelques mots tout à l'heure après l'indicatif. Et j'avais donc prévu une habile transition puisque nous allons justement passer une chanson de ce compositeur et chanteur José Afonso qui a écrit Grandola Villa Morena. Avant d'entendre l'indicatif de Trou Noir, la chanson dont il s'agit s'appelle Teresa Torga, une chanson de José Zeca Afonso, inspirée d'événements à résonance politique incarnés par une figure féminine. Les remous causés par une ancienne vedette du théâtre de revue, Teresa Torga, justement, qui apparaît nue dans les rues de Lisbonne et qu'un journaliste décide de prendre en photo. Cette femme devient le symbole de causes qui la dépassent et incarne la quête de liberté face à un régime castrateur ou dans une période où l'idéal démocratique fait son lent chemin dans la Portugal post-25 avril. Et oui, puisque ce 25 avril 2024, nous fêterons le 50e anniversaire de la révolution portugaise, dite révolution des œillets, et pour se souvenir que cette révolution-là était plutôt heureuse et joyeuse, mais que les révolutions sont toujours à faire et toujours à défendre, puisque les dernières élections au Portugal n'ont pas été si joyeuses. Et musique donc avec José Afonso.
No centro da avenida, no cruzamento da rua, às quatro em ponto perdida, dançava uma mulher nua. A gente que via a cena, correu para junto dela, no intuito de vesti-la, mas o António Capela, que aproveitando a barbuda, só pensa em fotografá-la. Mulher na democracia não é biombo de sala. Que aproveitando a barbuda, só pensa em fotografá-la. Mulher na democracia não é biombo de sala. Dizem que se chama Teresa, seu nome é Teresa Torga. Mudou pica bem Benfica, a dura malta da Borga. Aluga quartos de casa, mas já foi primeira estrela. Agora é modelo à força, que o diga António Capela. Teresa Torga, Teresa Torga, vencida numa fornalha. Não há bandeira sem luta, não há luta sem batalha. Teresa Torga, Teresa Torga, vencida numa fornalha. Não há bandeira sem luta, não há luta sem batalha.
Thank you.
Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. On est lundi, il est 16h, c'est l'heure de Trou Noir.
Donc aujourd'hui, si vous écoutez Nicolas, vous savez que c'est une émission qui est en hommage à Américo Núñez, qui nous a quittés début février. Donc quelques mots extrêmement rapides pour le présenter, pour ceux qui ne l'auraient pas connu. En fait, ses parents étaient portugais, mais à l'époque, le Mozambique étant une des colonies du Portugal, il était né là-bas. Et après, ses parents ont quitté le Portugal au moment de l'arrivée de Salazar, enfin de la dictature de Salazar. Et il a ensuite, Américo, séjourné, quelque chose d'assez important pour lui, 3 ans à Alger après l'indépendance, et il s'est rendu compte, il a écrit des textes là-dessus, que la soi-disant autogestion mise en place par l'État algérien était complètement du pipeau. Ensuite, il est revenu en France, il a été assez déçu par ce qu'il a vu en Algérie. Il est revenu en France et un peu avant mai 68, et à cette époque-là, il s'est rapproché d'un mouvement genre socialisme ou barbarie, pour ceux qui voient, disons, des conseillistes, des situationnistes, etc. Je ne développe pas plus. On l'avait reçu parce qu'il avait sorti un livre qui est un livre référent sur la révolution mexicaine, qu'il connaissait très bien, et que je crois qu'il était sorti aux éditions Abirato, si je me souviens bien. Et donc, on l'avait reçu en Trou Noir, je crois, en 2011, quelque chose comme ça, Monique. En tout cas, il y a pas mal de temps, et on vous repasse cette interview, enfin, ces échanges avec lui.
Voilà, c'était le 13 décembre 2010, et à l'époque, c'était dans le cadre de l'émission Terre et Liberté, qui est devenue une rubrique de Trou Noir.
Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. Nous sommes le deuxième lundi du mois, il est 16h et c'est l'heure de Terre et Liberté.
Bonjour, donc déjà on va se présenter autour des micros. Donc, Marc.
Bonjour.
Un habitué et un créateur de l'émission, Serge au micro, et puis à ma gauche, Américo Núñez, qui va se présenter un peu plus longuement, je pense, avant qu'on aborde le sujet de l'émission, vaste sujet, puisque, bon, on n'est pas trop spécialement sur les anniversaires, mais en tout cas, c'est, on pourrait dire, le centenaire d'une des révolutions au Mexique. Et on en a déjà un petit peu parlé dans une autre, au moins une ou deux émissions, mais on a pensé que ce sera quand même important qu'on approfondisse un petit peu les révolutions du Mexique. Alors à la fois les révolutions qui sont installées dans le temps, mais je pense qu'on parlera c'est surtout autour de 1910, mais aussi d'ailleurs ton livre s'appelle « Les révolutions du Mexique ». Et c'est important de se rendre compte, je crois que ça va faire l'objet de l'émission, en particulier que une révolution peut être multiple, c'est-à-dire qu'il peut y avoir à la fois des forces multiples qui agissent avec éventuellement des objectifs différents, et c'est pas forcément le résultat un État qui a été pris d'assaut par les bons qui ont gagné. D'ailleurs, malheureusement, on peut dire que dans une certaine mesure, ils ont perdu. Et c'est un peu aussi, on fait un petit peu la mémoire des vaincus, pour reprendre le titre d'un livre de Michel Ragon, mais cette mémoire des vaincus, je pense, un rôle essentiel pour une révolution peut-être à venir, hein, en tout cas on l'espère. Voilà, donc ça c'est pour une présentation rapide qu'on va bien entendu avoir l'occasion de détailler avec toi. Donc je pense que c'est autour d'un livre que tu